Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 13 avril 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Rosine Monezero.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, 4 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire tués mardi en zone anglophone.
Arrestation d'un ancien milicien accusé de crimes de guerre en Centrafrique alors qu'il tentait de franchir pendant le week-end la frontière avec le Cameroun.
Au Mali, l'armée a annoncé l'interpellation de 3 Européens suspectés de terrorisme dans le centre du pays.
Ici aux États-Unis, la police de New York, toujours aux trousses du tireur du métro qui a fait 23 blessés hier.
Le président américain Joe Biden accuse son homologue russe Vladimir Poutine de génocide en Ukraine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, 4 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ont été tués hier, mardi, dans une embuscade en zone anglophone. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Ces 4 fonctionnaires ont été abattus par des éléments de 2 milices séparatistes anglophones dans la région du Nord-Ouest. Les milices dénommées Ambazonia Defensive Forces et Ambazonia Restoration Forces ont revendiqué, sur une vidéo devenue virale, l'embuscade contre le véhicule qui transportait les 4 personnes tuées. On y aperçoit des corps allongés et leur véhicule mitraillé. Ces fonctionnaires allaient procéder à l'installation du nouveau régisseur de prison de la localité de Kambé, à 164 km de Bamenda, en zone anglophone. Une source officielle du ministère de la Justice a confirmé à VOA Afrique sous anonymat le décès des agents de l'administration pénitentiaire, dont le délégué régional du Nord-Ouest. L'armée régulière et les groupes armés se battent depuis novembre 2016 dans plusieurs localités des 2 régions anglophones. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En Centrafrique, arrestation près de la frontière avec le Cameroun d'un ancien membre d'une milice accusé de crimes de guerre en RCA, pays en proie depuis plusieurs années à une guerre civile. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur général de Bangui. Il s'agit du colonel Christian Djuma Narkoyo, gendarme de profession, ex-porte-parole de la SELECA, recherché pour crimes de guerre et association de malfaiteurs.
Au Mali, l'armée a annoncé mardi soir que trois ressortissants européens suspectés de terrorisme ont été interpellés dans le centre du pays lors d'opérations contre des djihadistes. Son communiqué ne précise pas l'identité de ces suspects européens interpellés à Diabali, une localité à environ 300 km au nord-ouest de Bamako.
Par ailleurs, un hélicoptère de l'armée malienne a récemment tiré plusieurs roquettes à proximité de casques bleus britanniques, un incident exceptionnel alimentant les questions sur l'avenir de la mission de l'ONU au Mali. Jacques Aristide.
Londres indique que tout le personnel britannique est sain et sauf, ajoutant qu'une enquête est en cours. Pour le vice-représentant américain à l'ONU, Richard Mills, il s'agit d'un incident inacceptable, ayant eu lieu le 22 mars, dans lequel un hélicoptère malien a tiré 6 roquettes près de soldats de la paix dans l'est du Mali. Les Occidentaux critiquent l'appel fait, selon eux, par les autorités maliennes au groupe privé russe Wagner. Bamako maintient ne pas recourir à des mercenaires et parle de coopération d'État à État avec la Russie. L'armée malienne a été accusée du massacre le mois dernier de centaines de civils à Moura. Le Mali nie ces accusations. Le mandat de la MINUSMA, qui comprend quelques 14 000 militaires et policiers, arrive à échéance en juin prochain. Nombre de pays contributeurs ont entrepris de réexaminer leur appui au vu des derniers développements au Mali. La fin des opérations françaises et européennes va priver les casques bleus d'un soutien aérien et médical jugé précieux et l'ONU est en train d'étudier le moyen de le minimiser.
Au Niger, toujours pas de communication officielle sur l'incarcération de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Cissé, la semaine dernière dans une affaire de tentative de coup d'État déjouée en mars 2021. Son conseil était devant la presse ce mardi pour donner des détails sur ce dossier en instruction devant le tribunal militaire. De Niamey, notre correspondant Abdoul Reza Kidrissa.
Pour sa première sortie médiatique depuis l'incarcération de son client, Maître Mohamed Hamani Meïga Salim a d'abord dénoncé le non-respect de la procédure en la matière. Ousmane Cissé Ibrahim a été conduit d'abord à la gendarmerie alors que le mandat d'amener indiquait une convocation devant le juge d'instruction du tribunal militaire.
La gendarmerie n'est pas le cabinet du juge d'instruction.
Aussi, selon Maître Salim, son client ignorait totalement tout ce qui lui était reproché dans cette affaire.
Lui comme moi n'avons appris qu'il serait concerné par cette affaire de tentative de coup d'État du 31 mars 2021 que lorsqu'il a été inculpé.
Le lieu de détention n'est pas non plus approprié au vu de l'état de santé de l'ancien ministre selon son avocat.
Il est revenu à Niamey en instance d'évacuation sanitaire. Il était en attente d'évacuation sanitaire. Où il a été interpellé. Son état de santé est assez critique avant même son interpellation. Aujourd'hui, son état est encore plus chancelant. Au point où nous avons avec insistance demandé à ce qu'au moins il puisse être incarcéré dans un milieu favorable à son état de santé.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la police de New York poursuit ce mercredi la traque d'un homme qui, muni d'un masque à gaz, a semé mardi le chaos dans le métro à l'heure de pointe du matin en déclenchant deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu faisant 23 blessés, dont 10 par balle. Le suspect a tiré 33 balles dans le métro.
D'après plusieurs médias, le suspect serait un certain Frank James, un Africain-Américain de 62 ans, qui a publié diverses vidéos sur YouTube où il livre de longues tirades politiques, parfois virulentes, et critique le maire de New York, l'ancien policier Eric Adams.
En visite dans l'Iowa, le président Joe Biden a promis « Nous ne lâcherons rien tant que nous n'aurons pas trouvé l'auteur du crime ». Lundi, il avait annoncé des mesures contre certaines des armes à feu qui prolifèrent aux États-Unis et qui ont tué 45 000 personnes dans ce pays en 2021, suicides inclus, selon l'organisation Gun Violence Archive, une épidémie, selon la Maison-Blanche.
Les forces russes maintiennent la pression sur la ville portuaire de Mariupol et dans l'est de l'Ukraine où des pertes civiles sont révélées de façon quasi quotidienne. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le gouverneur ukrainien de la ville de Lugansk a révélé mardi qu'environ 400 civils ont été enterrés depuis le début de la guerre à Severodonetsk, une ville de l'est du pays où l'armée russe est à l'offensive. Les morgues dans les villes de la région débordent de corps de civils morts, a ajouté Sergei Gaïdaï, précisant que des fosses communes sont aussi creusées dans une ville voisine. À Mariupol, ville assiégée par l'armée russe, la position des troupes ukrainiennes paraissait désespérée. Selon le conseil présidentiel ukrainien, les soldats ukrainiens sont encerclés et bloqués dans cette ville où 90% des maisons ont été détruites. L'armée russe a affirmé de son côté avoir fait échouer lundi une tentative de percée d'une centaine de soldats ukrainiens avec des blindés dans le nord de la ville. L'ONU réclame une enquête, mais le président russe Vladimir Poutine a qualifié mardi de fake les informations accusant ses soldats d'avoir massacré des centaines de civils à Boutcha, dans la banlieue de Kiev.
Le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé son homologue russe Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine. Mardi, jour où les autorités régionales du sud-est du pays ont évalué à au moins 20 000 morts le nombre de victimes à Mariupol depuis la fin février.
On s'attend à une bataille acharnée pour le contrôle total de Mariupol. voire le recours à des armes chimiques envisagées par les séparatistes pro-russes du Donbass. Les États-Unis ont ainsi fait état mardi d'informations crédibles en son sens.
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques s'est elle aussi dite mardi préoccupée par ces informations sur lesquelles le Royaume-Uni avait déjà mis en garde lundi. Dans l'Est, frontalier de la Russie et où Moscou a fait de la conquête totale du Donbass son objectif prioritaire, Kiev a annoncé s'attendre à brève échéance à une importante offensive. Plus de 4,6 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par Poutine le 24 février, selon le HCR. La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Ouganda sollicite les manifestations d'intérêt des investisseurs pour redémarrer une vaste mine de cuivre dans l'ouest du pays qui détient également d'importants gisements de cobalt. Les géologues estiment que la mine de Kilembe, en grande partie abandonnée à la frontière avec la RDC, contient environ 4 millions de tonnes de minerais, dont 1,98% de cuivre et 0,17% de cobalt. Le redéveloppement de Kilembe va offrir des opportunités d'emploi et augmenter les revenus. Les entreprises intéressées devraient s'associer au gouvernement par un accord de partage de la production minière. En Afrique du Sud, le syndicat national des mineurs, l'association des mineurs et le syndicat de la construction sont en grève dans les exploitations aurifères de Sibanye à Rustenburg et Marikana depuis le 9 mars. Ils exigent une augmentation de $78,72 par mois pour les trois prochaines années. Pour terminer, l'inflation s'est accélérée en mars aux États-Unis, atteignant son plus haut niveau depuis plus de 40 ans en raison des prix de l'essence, poussant l'administration Biden à annoncer des mesures. Les prix ont augmenté de 8,5% sur un an contre 7,9% en février, selon l'indice des prix à la consommation publié ce mardi par le département du travail.
Merci Nani. À présent les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Basketball pour commencer avec les matchs de la conférence NIL qui se disputent au Caire en Égypte. Hier, les Angolais du Petro de Luanda ont enregistré leur deuxième victoire dans cette compétition en laminant Cobra Sport du Soudan du Sud 92-56. Deuxième victoire également pour le champion en titre, le Zamalek d'Égypte, vainqueur 101-97 face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers. Ce soir, Cobra Sport tentera de se racheter devant BC Espoir Foukacha de la RDC et les Tigers feront pareil face aux Camerounais de FAP. Ici, à NBA, la star de Dallas, Luka Doncic, souffre d'une élongation au mollet gauche. Ont annoncé les Mavericks, ce qui rend incertaine sa participation au premier match des playoffs contre Utah samedi. Doncic a commencé un traitement et il n'y a pas de calendrier établi quant à son retour sur les parquets, a indiqué son club. Le talentueux Slovène a contracté la blessure dimanche lors du dernier match de la saison régulière remporté contre San Antonio 130-120. Cette saison, il a manqué 17 matchs et les Mavs n'en ont gagné que 8. Sélectionné cet hiver pour la troisième fois au All-Star Game en 4 saisons en NBA, le meneur de 23 ans a tourné à une moyenne de 28,4 points, 9,1 rebonds et 8,7 passes décisives par match. Football, match retour des quarts de finale en Ligue des Champions ce soir en Europe. Liverpool des Africains, Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joël Matip, vainqueurs 3-1 de Benfica à l'aller, fait figure de grandissime favori pour atteindre les demi-finales. Cet objectif est partagé par Manchester City en danger à Madrid avec un seul but d'avance avant son quart retour contre l'Atlético. L'UEFA a ordonné lundi la fermeture d'une partie du stade Wanda Metropolitano de Madrid pour le quart de finale retour en raison du comportement discriminatoire de certains supporters espagnols, dit-elle. L'Atlético devra désigner avant la rencontre le ou les secteurs fermés qui devront comprendre au moins 5000 places, précise l'organe disciplinaire de l'instance européenne. Hier, avec un but en prolongation, Karim Benzema a qualifié le Real Madrid pour les demi-finales au terme d'un scénario épique contre Chelsea, du portier sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech. Chelsea qui a touché sa remontada du doigt en menant 3-0 en Espagne avant de flancher 3-2. Le Bayern Munich a été éliminé par Villarreal victorieuse 1-0 à l'aller et formidable d'abnégation pour arracher un nul synonyme de qualification 1-1 à l'Alliance Arena avec un but tardif du Nigérian Samuel Chukwueze à la 88e minute.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebouya, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Fin de la visite d'État ce matin au Congo-Brazzaville du président rwandais Paul Kagame. Il a visité hier des projets agropastoraux à Oyo, village de son homologue Denis Sassou Nguesso. Bien avant, les deux présidents avaient supervisé la signature de plusieurs accords économiques entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Au micro de notre correspondant Arsène Séverin, quelques réactions recueillies à Brazzaville.
Sur les 9 accords signés en présence des présidents Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, le Rwanda a obtenu une concession de 12 000 hectares de terres pour réaliser l'agriculture. En plus, l'entreprise rwandaise Crystal Venture va investir dans la zone économique de Maluku, dans le nord de Brazzaville, pour un montant de plus de 200 millions de dollars. C'est pour la première fois qu'une entreprise à capitaux étrangers s'engage fermement et concrètement à mettre de l'argent dans cette zone. Alain Akwala, ancien ministre des zones économiques spéciales, salue cet engagement du Rwanda.
À l'époque où j'occupais ces fonctions, j'avais reçu à 2 reprises des délégations qui étaient venues donc de Kigali. Il y avait donc chez eux une véritable ambition d'un partenariat économique avec le Congo. Le Rwanda est un pays qui a connu quand même une trajectoire historique assez dramatique et qui s'est relevé depuis 1998 à travers notamment le président Kagame, à travers le Rwanda 2020. Et on voit aujourd'hui les résultats. Et donc cette expérience ne peut être que bénéfique pour le Congo.
La veille, Paul Kagame avait demandé dans un discours devant le Parlement réunis en congrès aux dirigeants africains de se lever et de passer à l'action pour le développement. Ils ont trop fait de promesses à leur peuple, il faut maintenant agir, avait-il dit dans un message délivré en anglais. Le panafricaniste et analyste social Gakoso Obambe a réagi à ce discours.
Les Africains ont parlé, les Africains doivent agir. Nous avons agi, mais nous n'avons pas assez bien agi. Nous devons agir autrement. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que certains se réveillent avec le discours du président Paul Kagame devant le Parlement congolais. Il n'y a aucune vantardisation là. Il suffit de lire la littérature panafricaniste. Vous vous rendrez compte qu'il y a longtemps que les panafricanistes proposent que les Africains se mettent à agir, que les gens qui sont élus sur la base de certains programmes, qu'ils mettent en musique leurs programmes. Nous avons tout en Afrique pour nous en sortir. Il ne manque rien.
Constant Ibarapéa, politologue, revient quant à lui sur les propos de M. Kagame qui prône une Afrique unie et prospère.
L'objectif principal de notre ordre politique institutionnel, c'est la jouissance, c'est la prédation, c'est le partage, c'est l'accumulation et c'est la consommation. C'est le pilier sur lequel repose le pouvoir de Brazzaville. Donc le discours de M. Kagame ne changera rien. Ça c'est le un. Deuxièmement, c'est que M. Kagame n'est pas un modèle. C'est vrai qu'il est un modèle de gouvernance chez lui. Ce qu'il fait, et c'est comme on dit, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. M. Kagame, c'est celui-là qui a envahi la RDC depuis plus de 20 ans.
Après Brazzaville, Paul Kagame a visité les projets agropastoraux à Oyo avant de quitter le Congo ce mercredi matin au terme d'une visite d'État de 72 heures. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Burundi, la nouvelle délimitation pour les tricycles, motos et vélos est en vigueur depuis près d'un mois. Le gouvernement est satisfait car le nombre d'accidents a sensiblement baissé. Cependant, les utilisateurs et les propriétaires de ces engins demandent que le gouvernement revoie cette mesure. Un reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Dans le quartier de Kamenge, au nord de Bujumbura, des pancartes montrent les limites à ne pas dépasser pour le transport des usagers des tricycles tuk-tuk, communément appelés bajaj, moto et vélo. Ce mardi matin, il y a eu très peu de clients. Les chauffeurs de ces engins se demandent où vont-ils trouver l'argent pour acheter à manger. Ce jeune homme, la vingtaine, demande aux autorités de revoir la mesure et de les laisser circuler librement dans les quartiers de Bujumbura.
Nous qui avons des enfants, il est difficile de vivre car nous n'avons pas assez de nourriture. Nous pouvions avoir 3 000 francs burundais pour la nourriture des enfants. Le charbon que l'on achetait à 500 francs est aujourd'hui 1 500. Les haricots qui étaient à 1 200 est acheté à 1 800 francs burundais. Tout augmente à cause du manque de carburant. Nous demandons au gouvernement de revoir cette situation et diminuer les prix. On peut ne pas avoir des vêtements, mais avoir de quoi mettre sous la dent.
Cet autre jeune homme, la trentaine, demande aux autorités de revoir cette décision qui affecte les familles pauvres.
Depuis que cette mesure est en application, depuis que l'on ne circule pas dans les quartiers de Bouiza, Bouyenzi, Diabé et autres, on n'a pas de paix morale. Il n'y a pas de mouvement pour avoir de l'argent. On peut faire un ou deux mouvements, mais l'argent n'est pas suffisant, surtout que les prix des produits de première nécessité ont flambé. Nous vous demandons d'être notre représentant et de le dire en haut lieu pour que nous puissions avoir des endroits où travailler. Certains ont déjà abandonné leurs femmes, d'autres ont abandonné leurs enfants car ils n'ont rien à leur donner, surtout que nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver dans certains endroits.
Dans la commune urbaine de Moura, la rivière Moura sépare les quartiers de Moussaga et Kanyosha. Il est interdit de dépasser cette rivière pour les vélos, motos et tricycles. Ce jeune conducteur qui n'a plus de travail se demande comment il va pouvoir repartir chez lui à Chankuzo, à l'est du Burundi.
Personnellement, ça fait un mois que je ne travaille pas. Je n'ai même pas le ticket de 40 000 francs burundais pour arriver chez nous à Kankuzo, tout près de la Tanzanie. C'est donc un problème pour y arriver. Les autorités nous demandent de travailler. Comment alors travailler alors que nous ne pouvons pas aller dans nos anciens parkings? Le président burundais avait déclaré qu'il est l'ami des jeunes, que nous devions travailler et avoir au moins 10 000 francs dans nos poches pour nous acheter de quoi manger.
Malgré toutes ces demandes, Gervais Ndirakobucha, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a dernièrement affirmé que le nombre d'accidents diminuait depuis que cette mesure est entrée en vigueur et félicite les forces de l'ordre. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Sénégal, le Ramadan marque une période de solidarité et de partage. En plus des actions classiques de distribution de pain et de café dans les rues à l'heure de la rupture du jeûne, les associations caritatives de jeunes penchent aussi pour des repas solidaires envers les démunis. Autre fait marquant, le Nogou, rupture du jeûne solidaire, réunissant musulmans et catholiques en cette période où carême et ramadan se croisent. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Il est un peu plus de 19h au rond-point de Djedo de l'avenue Bourguiba, l'une des principales artères de la capitale sénégalaise. Les voitures circulent difficilement à cause des embouteillages et chacun essaie de se faufiler car l'heure de la rupture du jeûne est imminente. Et comme chaque jour à cette heure, des dizaines de jeunes distribuent des mets aux riverains, aux passants, aux conducteurs et passagers des véhicules particuliers et de transports en commun pour qu'ils puissent rompre le jeûne en attendant d'arriver chez eux. La particularité de cette action de solidarité qui se déroule depuis l'année dernière au rond-point Gédo de Dakar est qu'elle est à l'initiative de fidèles chrétiens qui ont voulu marquer leur attachement à la cohésion sociale. Nina Pendafaï, membre de la communauté chrétienne du Sénégal.
C'est une grande symbolique pour montrer qu'on est un et qu'on est indivisible. Que le Sénégal, malgré que nous soyons musulmans et chrétiens, nous vivons des relations entre communautés qui sont extraordinaires et qui sont un exemple dont nous sommes fiers, mais qui est un exemple qui fait que les Africains et d'autres communautés du monde nous envient et nous respectent.
Avec le chevauchement du Ramadan et du Carême cette année, les fidèles musulmans et chrétiens pensent qu'il était important d'en profiter pour lancer un message fort à l'ensemble du peuple sénégalais, comme l'affirme Amélie du collectif des jeunes chrétiens et musulmans.
On espère que cette initiative va nous permettre de raffermir les liens, de prôner le dialogue islamo-chrétien et surtout de tout faire pour que la cohésion sociale soit respectée au Sénégal.
Ce genre d'initiative est devenu une tradition durant le mois de Ramadan. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des pensées pensionnaire de la faculté de droit le font depuis plus de 8 ans pour pallier les difficultés des étudiants à se payer un bon repas. Regroupé autour de l'association religieuse dénommée Daïre Nourou Daïre Ni Touba Fak Droit, Mohamedou Bamandiaye et ses camarades indiquent qu'aider, c'est avant tout une question de foi.
Nous avions pris l'initiative d'aider ces étudiants tout en nous inspirant d'un commandement. C'est un commandement divin qui nous enseigne, nous, en tant que musulmans, d'aider son prochain, de lui fournir ce dont il manque.
De leur côté, d'autres utilisent leur notoriété au service de la communauté. Le célèbre influenceur Mamadou Diakhaté Di Ninché a ainsi mis entre parenthèses ses activités bénévoles de réfection des salles de classe pour se consacrer au repas de la solidarité.
C'est des repas que nous faisons pour les personnes qui ont la particularité de dormir dans la rue. On s'est dit pourquoi pas ne pas vraiment partager nos repas avec ces personnes. Et pendant cette période de partage, ce mois béni de Ramadan pour les musulmans, nous essayons de soulager ces gens en leur offrant au moins un repas la nuit, tout en essayant de préserver leur dignité.
Malgré les difficultés rencontrées dans la collecte des fonds et des dons, les associations et initiateurs des activités de solidarité durant le Ramadan restent déterminés à aller au bout de ces œuvres sociales basées pour la plupart sur la foi, la cohésion sociale et le sens du partage. Sérina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie continuent d'affecter la chaîne d'approvisionnement mondiale déjà affaiblie par la pandémie de COVID-19. Pour voir ce que cela signifie pour les consommateurs aux quatre coins du monde, Elisabeth Lee de la VOA s'est rendue à Rocky Point Farm à Frédéric dans l'État américain du Maryland. Le récit est de Jacques Aristide.
Chuck Fry est un producteur laitier. Pour lui, l'agriculture, déjà à la merci de la météo, est lourdement affligée par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine.
La chaîne d'approvisionnement mondiale pour les fermes est un désastre.
Chuck cultive des plantes telles que l'orge et la luzerne, destinées notamment à nourrir ses vaches. Les coûts d'opération de sa ferme ont augmenté de manière vertigineuse.
Les prix des engrais ont presque triplé par rapport à l'année dernière.
900 kg d'engrais lui coûtaient environ $330. Cette année, la même quantité est à plus de $800. D'abord, la pandémie a perturbé la production et l'acheminement. Puis la Russie, qui produit de nombreux fertilisants, a envahi l'Ukraine. La chaîne d'approvisionnement mondiale a ralenti, un peu comme le trafic routier, d'après l'économiste Chris Tan.
The disruptions is like someone...
La perturbation est comme si quelqu'un appuyait sur l'accélérateur ou le frein.
Ce qui provoque des retards. Aaron Robé est le directeur de l'usine d'engrais Helena à Frédéric.
Lorsque vous ne pouvez pas obtenir d'un fournisseur, cela impose des contraintes à tous les autres, vu qu'il n'y a tout simplement pas assez pour tout le monde.
Chuck Fry a dit que le prix du diesel a plus que doublé.
C'est ce carburant qui met de la nourriture sur la table. Ce tracteur fonctionne au diesel. Sans cela, il n'y a pas de récolte.
L'économiste Chris Tang de l'Université de Californie à Los Angeles est d'avis que les retards vont continuer.
Ce sera le cas si la production chinoise est intermittente. À chaque arrêt, les usines ne produisent plus rien. Puis à la reprise, cela crée un embouteillage.
Quand l'offre diminue face à la demande, les prix augmentent, ce qui conduit à l'inflation.
Notre monde est entièrement connecté. Donc l'inflation dans un pays entraînera également l'inflation dans d'autres pays.
Chuck Fry a augmenté de 10% les prix des crèmes glacées qu'il produit.
Les prix ont augmenté en raison de la hausse des coûts des intrants. Je sais très bien que les prix des denrées alimentaires vont monter en flèche en raison de l'offre et de la demande.
Comme de nombreux agriculteurs, Chuck indique qu'il devra peut-être réduire sa production pour compenser la hausse des prix et conserver la ferme qui appartient à sa famille depuis les années 1800.
Voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Rosie Monedero. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.